France Inter.
France Inter. Le 7-9. Nicolas Demorand.
Et nous sommes toujours avec les amis André Manoukian, Didier Varro, Rebecca Manzoni. Nous rejoint ici en studio Gilles Lotte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes photographe, reporter, journaliste à Paris Match. Vous avez consacré de très nombreux livres à Johnny Hallyday, Johnny le survivant, dictionnaire de A à Z, Johnny le rock dans le sang, journal de la démesure, Johnny interdit, Destroy chez Michel Lafon. Dites-nous, expliquez-nous comment s'est créée la légende, la mythologie Johnny, dont on mesure ce matin l'extrême ampleur.
Bah, tout a démarré par l'émission en 1960, L'école des vedettes, où Johnny est apparu dans une France triste, dans un petit écran en noir et blanc. Et les gens de ma génération, les baby-boomers, on a vu apparaître un mec splendide, solaire.
Vous aviez quel âge ?
Moi, j'avais 12 ans.
Ah oui ?
Et ça a changé ma vie.
Vraiment ?
Vraiment.
Vous vous souvenez de ces images-là ?
Oui,
et de ce qu'est le premier contact avec
Johnny. Oui, parce que j'étais en pension chez les curés à Luçon, je m'en souviens très bien. Et moi, c'était noir, c'est noir déjà, quoi. Donc, quand je vois ce mec arriver comme ça à la télé, dans la France triste de l'époque... Ça va devenir le phare de mon existence, parce que 2 ans après, il passe en concert à Châtelaillon, et avec tous mes potes, on a nos mobilettes bleues trafiquées, on a nos jeans et tout ça, et on va au concert, et moi je me mets devant la scène pour kiffer, quoi, pour voir ce mec à qui je voudrais vraiment ressembler, quoi.
Il
chante et je levais les bras comme ça pour l'applaudir, et il me prend par la main, il me monte sur scène et il me fait chanter le refrain de Dadou Run Run. T'imagines un peu ?
Ouais.
Donc, tous mes potes, ils sont foudrage, ils me disent mais tu chantes faux et tout. C'est vrai, j'ai chanté faux et tout, sauf que c'était pour moi... Ça a été vraiment important. Moi, Johnny Hallyday, dans ma vie, il a vraiment été important. C'est quelqu'un qui a été important.
C'est l'arrivée de l'érotisme, de la sensualité, pour vous, qui sortiez de chez les curés.
Grave. Mais c'était des promesses de sexe. C'était des promesses de rébellion.
Il nous a
donné envie de nous éclater, ce mec-là.
André Manoukian.
Il y a quelque chose qu'on dit pas souvent, c'est qu'en fait, dans ces années-là, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que la jeunesse revendique une musique à elle, qui va aller contre la musique de ses parents. La musique, normalement, on apprend, c'est l'apprentissage, on apprend la musique de son père. Très souvent, les musiciens, c'est de père en fils, sont initiés, etc. C'est la première fois qu'on a une musique totale.
Ouais, c'est vrai, mais les parents ont peur. Moi, je me souviens, j'avais qu'une peur, c'est que mon père se lève et qu'il éteigne la télé.
Il écoutait quoi, votre père, à l'époque, vous vous souvenez ou pas ?
Ils écoutaient Gilbert Bécaud.
Ce qui était pas mal, d'ailleurs.
Qui faisait casser des photos.
Le premier à chanter Salut les copains, d'ailleurs.
Sauf que Johnny l'a électrocuté, quoi.
Didier Gilotte disait, j'ai un souvenir aussi d'écran de télé en noir et blanc. Johnny, c'est ça, c'est le passage à la couleur.
C'est exactement ça. On passe de la France des années 50 qui a voulu oublier
avant la couleur.
Et qui voulait oublier la guerre, aussi, et la reconstruction, à ces années 60 où tout est possible, et surtout, on est une jeunesse qui n'existait pas. L'adolescence, le concept de l'adolescence n'existait pas. C'est avec James Dean et La Fureur de Vivre que ce concept-là est né, et que d'ailleurs, les cadors de l'économie vont en faire un concept aussi économique. Mais c'est vrai que ce passage du noir et blanc à la couleur, il se traduit aussi dans une révolution sociologique. Pour la première fois, on va avoir des jeunes gens issus du prolétariat majoritairement, qui vont gagner plus que leurs parents. Vous imaginez le choc structurel que ça a engagé dans la société française. Ces jeunes gens qui avaient 18 ans, 17 ans, 19 ans, qui gagnaient plus que leurs aînés. C'est une fracture insensé qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Jean-Marie Perrier le raconte très bien, ce photographe des idoles. Il dit que c'était ça aussi l'incompréhension de la société française à ce moment-là. De voir ces jeunes gens beaux, insouciants, qui incarnaient cette sauvagerie et ce besoin d'électricité et de sexualité et d'émancipation, tout d'un coup, damer le pion aux croulants et aux adultes.
Rebecca Manzoni.
Alors, vous parliez de révolution et de rebelle attitude, mais Johnny aussi, au fil de sa carrière, c'est quand même le rock'n'roll qui vieillit. C'est-à-dire que cette révolution, comme toutes les révolutions, elle a fini par devenir une institution, voire une tradition. Et pour moi, qui n'ai pas connu le début des années 60 et le passage à la couleur...
Le souffle brûlant du désir.
Pour moi... ça... Oui,
ça ne s'est pas passé qu'une seule fois dans l'histoire de l'humanité, rassurons-nous.
Ce que je veux dire, c'est que pour moi, Johnny Hallyday, c'est surtout l'association des contraires, c'est-à-dire un homme qui commence sa carrière totalement méprisé par l'intelligentsia, avec Claude Sarraute qui, dans le journal Le Monde, à l'issue d'un concert à l'Olympia, écrit quand même un plaisir fait d'étonnement mêlé qui procure... un plaisir, pardon, fait d'étonnement mêlé que procure une visite aux chimpanzés du zoo de Vincennes.
Voilà, c'est ce que... Vous savez quoi,
c'est le paradoxe français.
Elle a presque raison. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est dans l'animalité. Et Johnny, la bête de scène qu'il est, c'est qu'il a pas peur de la reconvoquer, cette animalité-là.
Léa Salamé.
À quel moment ça bascule, Rebecca et les autres ? À quel moment ce chanteur, qui est un corps, qui est sexuel, qui imite les Américains dans les années 60-70, devient une mythologie française ? Est-ce que c'est quoi ? C'est Michel Berger, Daniel Rondeau, Luchini, Godard ?
C'est un peu tout ça.
C'est eux qui le font basculer dans une légende française.
Gillotte va pouvoir mieux le dire que nous, probablement. C'est Aznavour qui, en 61, après le Palais des Sports, Festival de Rock'n'Roll, qui va provoquer vraiment une fracture dans la société française, comme la Fête de la Nation 2 ans plus tard, lui donne des habits respectables. Et Charles Aznavour, c'est le monsieur du musical, celui qui a bien galéré, mais qui incarne ce nouveau musical.
C'est vraiment Charles Aznavour qui a révélé Johnny. Et c'est lui qui va lui faire tourner le premier film
Les Parisiennes.
Les Parisiennes, où il va tomber amoureux fou de Catherine Deneuve. C'est lui qui va lui écrire ses premières chansons, disons à texte.
Et il lui dit, il faut que tu fasses un slow. André. Et ça, il va lui écrire son premier slow. Donc là aussi, on est dans quelques...
C'est Retiens la nuit.
Retiens la nuit.
On est dans la sensualité aussi.
Et c'est également Aznavour qui va héberger Johnny dans son ranch aux alentours de Paris, quand il a ses premiers soucis avec les jeunes filles, et c'est surtout leur petit fiancé que Johnny cocufie à tour de bras. Et c'est Aznavour...
Via des disques ou au sens propre?
Et c'est Aznavour qui va l'héberger pendant 6 mois.
Nous noterons l'absence de réponse à cette question pourtant fondamentale de Gillotte.
Qui va demander à Johnny aussi d'arrêter d'épouser le mythe américain. Alors son nom de Hallyday, qui était le nom de son tuteur, Lee Hallyday, qui était l'ami de la cousine de Johnny Hallyday, va lui dire non, maintenant, tu peux, contrairement à ce que nous a dit Lynn Renault dans le petit écran, dire que tu es français et épouser effectivement cette mythologie, cette culture française que Léa Salamé, vous avez cité à travers d'autres figures emblématiques, Michel Berger, Jean-Luc Godard, Marguerite Duras, Françoise Sagan, Marie Nimier, ils sont tous là pour nourrir ce mythe français.
Rebecca Manzoni.
L'abandon du rythme américain, c'est notamment une chanson pour moi qui date de 1969, Je suis né dans la rue, qui commence par ces mots, je m'appelle Jean-Philippe Smet, et vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. En 69 d'ailleurs, par rapport au fait que Johnny s'est quand même institutionnalisé et devenu monument, donc qui a épousé une tradition française. Ah, un portable sonne. Pour moi, c'est un moment important, c'est 1968, parce que Johnny Hallyday est totalement passé à côté de 1968. Et encore une fois, c'est l'incarnation de contradiction, parce que ces années-là, c'est par exemple Que je t'aime, qui est un sommet d'érotisme, qui correspond à 68, et en même temps, sur un 45 tours qui s'intitulait Tout se brise entre mes mains, au dos du 45 tours, il est bien précisé que Tout se brise entre mes mains, attention, ça n'a strictement rien à voir avec les échauffourées du Quartier Latin.